Europe 1, le 22-22-30.
Julien Peers.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Elle a passé 1384 jours aux mains des djihadistes au Mali. Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a été libérée ce soir. Emmanuel Macron exprime à l'instant son immense soulagement. Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Étienne placés en zone d'alerte maximale. Sursis en revanche pour Toulouse et Montpellier. Olivier Véran confirme par ailleurs que les déplacements ne seront pas limités pendant les vacances de la Toussaint. Bruno Le Maire annonce lui un coup de pouce pour les oubliés du Covid. 75 000 entreprises supplémentaires vont bénéficier du fonds de solidarité. Point complet dans ce jour. L'émotion après l'agression ultra-violente de deux policiers hier soir dans le Val-d'Oise. Trois fugitifs armés toujours activement recherchés. Et puis Roland-Garros, ça y est, on connaît l'affiche de la finale dames. Elle sera 100% inédite. Le temps de demain, une France toujours coupée en deux. Nuages et pluie au nord, soleil au sud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse de 0,61% à 4 911 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. Clarins promet 100% d'emballage recyclable en 2025. Ce sera le sujet de l'interview Echo dans 20 minutes. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir le président du conseil de surveillance de la célèbre marque de cosmétiques. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On l'a donc appris il y a une heure, Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a été libérée. L'information a, dans le premier temps, été annoncée par la présidence malienne. Elle vient à l'instant d'être confirmée par l'Elysée. Dans un communiqué, Emmanuel Macron exprime son immense soulagement. Sophie Pétronin, 75 ans, était aux mains des djihadistes au Mali depuis près de 4 ans et elle est actuellement en vol pour Bamako, Mathieu Bock.
Oui, dans un CASA, un avion militaire de l'armée malienne, la française a été libérée à Tessalit, dans le nord du pays. Les deux otages se dirigent donc vers Bamako, la capitale, où ils devraient arriver vers minuit, heure française. On ne sait pas pour le moment dans quel état cette femme de 75 ans à la santé fragile se trouve. En réalité, Sophie Pétronin fait partie d'un échange de prisonniers avec Soumaïla Cissé, homme politique malien clé. Elle a été échangée contre plus de 200 prisonniers, dont des djihadistes, qui ont été libérés ces derniers jours. En réalité, cela concerne davantage cet ancien opposant, candidat à l'élection présidentielle. La Française aurait été rajoutée au dernier moment dans l'accord. Son fils, qui vit en Suisse, est arrivé à Bamako. Il y a plusieurs jours, dès les premières rumeurs de sa libération, il attend désormais de revoir sa mère. Sophie Pétronin était détenue depuis bientôt 4 ans, vous l'avez dit, depuis le 24 décembre 2016. Elle avait été enlevée en plein jour par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda à Gao, au nord du Mali, ville dans laquelle elle s'était installée en 2001. Cette travailleuse humanitaire de 75 ans, médecin nutritionniste, avait créé l'ONG AAG en 2004 pour venir en aide aux enfants de la région. En 2012, elle avait déjà échappé de justesse à un enlèvement par un groupe islamiste. Elle avait pu regagner la France pendant quelques temps avant de retourner à Gao afin de continuer sa mission. Et c'est donc là qu'elle sera kidnappée quelques années plus tard.
Merci Mathieu Bock, vous revenez bien évidemment dès que l'on a plus d'informations sur cette libération. Dans son communiqué, Emmanuel Macron remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération et les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance, écrit-il, contre le terrorisme au Sahel. Il n'y a donc ce soir plus aucun otage français dans le monde. L'autre actualité ce soir, c'est cette nouvelle carte de France de l'épidémie. Olivier Véran a tenu ce soir son point hebdomadaire avec son lot de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. On va voir cela avec vous, Victor Dolande. Pour commencer, quatre nouvelles villes basculent en zone d'alerte maximale.
Oui, il s'agit de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. On le pressentait depuis quelques jours, les cas se multiplient dans ces quatre métropoles. Comme l'a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, ces quatre villes entreront effectivement dans la zone d'alerte maximale à partir de samedi matin. Et les préfets auront les mains libres pour décider ou non de la fermeture des bars et d'un protocole renforcé dans les restaurants. Deux villes sont en sursis, il s'agit de Toulouse et Montpellier. Là aussi, la situation s'est dégradée, mais certains indicateurs, notamment le taux d'occupation des lits de réanimation, sont en dessous des seuils d'alerte maximale. Le gouvernement se donne donc deux jours supplémentaires pour trancher sur Toulouse et Montpellier.
Alors Victor, ça c'était pour les mauvaises nouvelles. En revanche, il y a quand même quelques points positifs.
Oui, il y avait beaucoup d'attentes autour des vacances de la Toussaint qui débutent dans 8 jours. Est-ce que oui ou non, il y aura des limitations de circulation ? Olivier Véran a tranché, aucune restriction de circulation, et ce pour deux raisons, comme l'a expliqué le ministre de la Santé.
D'abord, nous ne sommes pas arrivés à une situation de diffusion du virus telle que nous l'avions connue au printemps dernier, lorsque des restrictions de circulation avaient été prises. Ensuite, parce que si vous regardez la carte de France et que vous vous souvenez des métropoles qui ont été citées, en réalité, le virus, il circule beaucoup dans la plupart des métropoles, à l'exception de quelques-unes. Et donc, les circulations d'une zone à l'autre ne sont pas de nature à aller exporter, à amener du virus là où il n'y en aurait pas aujourd'hui.
Autre bonne nouvelle, deux départements, la Nièvre et le Morbihan, quittent la zone d'alerte renforcée. Et puis, dans quatre villes où la situation sanitaire préoccupe le gouvernement, Nice, Bordeaux, Rennes et Aix-Marseille, ça va mieux. Mais le ministre ne veut pas se précipiter. Il faut attendre, dit-il, pour voir si cette embellie se confirme. Il annoncera peut-être des très bonnes nouvelles pour ces quatre villes la semaine prochaine, si et seulement si la baisse est continue.
Merci Victor Delande. Et on part tout de suite à Lyon, rejoindre Jean-Luc Boujon. Lyon, l'une des quatre villes qui basculera samedi en zone d'alerte maximale. C'était attendu et redouté, Jean-Luc.
Oui, pourtant hier, le maire de Lyon ainsi que l'infectiologue lyonnais Bruno Lina, membre du conseil scientifique, nous avait expliqué que l'on avait visiblement atteint un plateau ici et qu'il ne leur semblait pas nécessaire de durcir les mesures pour le moment. Peine perdue, leurs arguments n'ont pas suffi. Il faut dire que les indicateurs, s'ils augmentent peut-être un peu moins vite qu'ailleurs, continuent tout de même de monter. Taux d'incidence de plus de 250 pour 100 000 habitants et taux d'occupation des lits de réanimation de 31%. Les signaux sont donc bien au rouge. Du coup, Lyon passe en zone d'alerte maximale à partir de ce samedi. Ce qui veut dire notamment que les bars vont désormais rester fermés au grand désespoir de Ben, le patron du monopole près de la place Bellecour.
Vraiment, c'est n'importe quoi. Pourquoi les restaurants ils vont rester ouverts? Les transports, ils sont confinés là-dedans. Les magasins, c'est pareil. Donc, je comprends pas. On va s'exécuter, on n'a pas le choix. On va pas être des rebelles et rester ouverts et créer d'autres problèmes. Ça va s'empirer, puisqu'ils ont le pouvoir de nous faire une fermeture administrative. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Voilà, les restaurants, eux, pourront, comme à Paris et Marseille, rester ouverts, mais avec un protocole sanitaire renforcé. Le préfet du Rhône devrait détailler toutes les mesures demain. Et comme il est aussi préfet de région, il détaillera aussi les mesures pour Saint-Étienne et Grenoble. On le voit, donc Auvergne-Rhône-Alpes est très touché par ce nouveau basculement en zone écarlate.
Ouais, Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était accompagné pour cette conférence de presse de son homologue à l'économie, Bruno Le Maire, venu lui aussi avec des annonces. Carole Ferry, plus d'entreprises vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité.
Oui, vous savez, le fonds de solidarité, c'est cette aide de 1500 euros qui a été versée à toutes les entreprises qui avaient perdu la moitié de leur chiffre d'affaires pendant le confinement. Depuis le déconfinement, elle est réservée à certains secteurs seulement, le tourisme, l'événementiel, la culture, le sport, avec une liste très précise des métiers concernés. Et bien ce soir, Bruno Le Maire a donc rajouté de nouveaux métiers à la liste. Les fleuristes, par exemple, qui n'ont plus de demande pour organiser les séminaires d'entreprise ou fleurir les grands hôtels. Au pressing et blanchisserie, les hôtels ont beaucoup moins de clients, donc beaucoup moins de draps à laver. Les graphistes également, qui n'ont plus de commandes de faire-part de mariage ou de salon professionnel. Et puis les bouquinistes des quais de Paris, qui n'ont plus de touristes étrangers. Bref, tous ces métiers indirectement victimes. Alors pour y avoir droit, il faut prouver une baisse de son chiffre d'affaires de 80% jusqu'à présent. Et bien ça va passer à 70%, a annoncé le ministre de l'économie. Le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois, en fonction du montant des pertes. Enfin, cette aide sera accordée aux entreprises de moins de 50 salariés contre 20 jusqu'à présent.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. À Paris et sa petite couronne, où les indicateurs sont toujours rouges écarlates, le directeur de l'agence régionale de santé dit attendre une marée très forte de malades dans les hôpitaux d'Île-de-France. En conséquence, le plan blanc renforcé a été réactivé, dispositif qui prévoit le rappel des personnels en congé, la réaffectation des effectifs en interne et le report de certaines opérations. À noter que Martin Hirsch, le président de la PHP, sera demain l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Dans l'ensemble du pays, maintenant, plus de 18 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation continue lui aussi de grimper. Et puis le regain de l'épidémie touche également nos voisins européens. En Pologne, le port du masque sera obligatoire partout à partir de samedi. Il l'est déjà depuis aujourd'hui en Italie, jusqu'à 1 000 euros d'amende en cas de non-respect de la mesure. C'est dissuasif. Rome recommande également le port du masque à domicile lors de la réception d'amis.
Europe 1, le 22-22-30.
Gérald Darmanin évoque un massacre. Deux policiers ont été grièvement blessés hier soir à Herblay, dans le Val d'Oise. Trois individus les ont violemment agressés avant de prendre la fuite. L'un des fonctionnaires est ce soir toujours entre la vie et la mort. Il a été touché par 4 balles. Gladys Laffitte, ces policiers ont été pris pour cible lors d'une mission tout à fait anodine. Ils étaient en repérage, en planque, à bord d'une voiture banalisée dans une zone industrielle.
Oui, une surveillance, une mission simple de vérification pour ces deux enquêteurs de la police judiciaire de Cergy. Il est à peu près 22h quand trois hommes repèrent la voiture. Ils ne savent pas que les occupants sont deux policiers. Ils pensent même à des malfaiteurs ou des concurrents. Les agresseurs les sortent alors de la voiture, les frappent violemment. Les victimes crient qu'ils sont policiers, espérant sans doute que les coups cessent, mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. Ils se font voler leurs armes et tirer dessus, deux fois dans les jambes pour le major de 45 ans et quatre fois dans le bas du corps pour le gardien de la paix de 30 ans. Il souffre aussi d'un traumatisme crânien, son pronostic vital est toujours engagé, malgré une opération en urgence à l'hôpital la nuit dernière. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles vont rechercher s'il existe des images de vidéosurveillance qui pourraient les aider. La voiture des policiers a été passée au peigne fin à la recherche d'éventuelles traces ADN des agresseurs. Trois hommes donc toujours activement recherchés. Il va falloir maintenant les identifier, les localiser. Ils ont emporté avec eux les deux armes des policiers et le téléphone portable de l'un d'eux.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Une soixantaine de personnes soupçonnées d'avoir téléchargé et consulté des milliers de photos et vidéos pédopornographiques ont été interpellées depuis le début de la semaine. Vaste coup de filet dans une trentaine de départements. Parmi les gardés à vue, au moins quatre sont également mis en cause pour des faits de viol sur mineurs. Tous les milieux sociaux sont représentés, cadres, chômeurs, retraités, éducateurs sportifs ou encore imams. Seul dénominateur commun, il s'agit d'hommes à 99%. Nicolas Sarkozy entendu pour le troisième jour consécutif. Les juges l'interrogent dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une école clandestine fermée aujourd'hui à Bobigny, école qui accueillait jusqu'à 80 enfants dans des conditions inqualifiables selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. Cette dernière annonce avoir agi dans le cadre de la lutte contre l'islam radical. Des fillettes âgées de 3-4 ans étaient voilées et l'enseignement s'y faisait hors de toute autorisation. Quant aux locaux dépourvus de cours de récréation, ils n'étaient pas aux normes et mettaient en danger la vie des enfants. Aux États-Unis, Donald Trump refuse que son prochain débat avec Joe Biden, prévu le 15 octobre, soit virtuel, c'est-à-dire par visioconférence pour limiter les risques de contamination. « Je ne pense pas être contagieux du tout », a déclaré le président américain qui exige deux débats face à face avec son rival démocrate. On passe au tennis, direction la Porte d'Auteuil.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
La jeune polonaise Iga Świątek n'a laissé aucune chance cet après-midi à l'Argentine Podoroska, 6-2-6-1. À seulement 19 ans, elle se qualifie donc pour sa première finale d'un grand chelem. Et on sait désormais contre qui elle va jouer samedi, Simon Rubin.
Oui, c'est l'américaine Sofia Kenin qui se qualifie pour la finale. Elle l'emporte face à Petra Kvitova, 6-4-7-5, dans un match qui a été assez tendu, assez accroché, notamment sur la toute fin de partie, au moment où il fallait conclure. Alors, Sofia Kenin, l'américaine, elle a 21 ans, hein. Elle aussi, elle est toute jeune, à peine plus âgée que Iga Świątek, la polonaise, 19 ans, qu'elle affrontera en finale. Sofia Kenin, certes, elle est jeune, mais c'est une joueuse de très haut niveau, tête de série numéro 4 et surtout gagnante de l'Open d'Australie en début d'année. Elle peut prétendre à une place, à un rôle de favorite pour cette finale. Elle qui va donc essayer samedi d'accrocher son deuxième tournoi du Grand Chelem.
Merci Simon Rubin en direct de Roland-Garros pour Europe 1. Je vous rappelle donc l'information majeure de ce soir. Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a été libérée. L'information a été confirmée il y a quelques minutes par l'Elysée. Sophie Pétronin était aux mains des djihadistes au Mali depuis près de 4 ans. Elle est actuellement en vol pour Bamako. La météo, Anissa Haddadi, il fera encore gris au nord demain.
Oui, effectivement, pas mal de nuages encore demain, Julien. Des Pays de la Loire aux Ardennes, en passant par la région parisienne, le ciel est couvert avec encore des averses demain matin. Sur les côtes du Nord-Ouest, la journée commence avec de belles éclaircies. Au sud de la Loire, il va faire beau demain, mais attention, le matin, dans le Sud-Ouest, encore des brouillards et des nuages bas. Et puis au bord de la Méditerranée, là, ce sont les entrées maritimes qui seront nombreuses, vous avez l'habitude dans la région. Dans l'après-midi, c'est le même type de temps que le matin, avec le quart Sud-Est sous le soleil, des éclaircies dans le Sud-Ouest et de la Vendée aux Ardennes. Encore des averses demain après-midi. À l'arrière de cette perturbation, sur les côtes du Nord-Ouest, le vent d'Ouest souffle toujours, mais vous aurez droit à quelques rayons de soleil. Les températures, elles sont plus douces demain sur la moitié Nord, avec 10 à 13 degrés, 8 à 10 sur la moitié Sud. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 15 à 18 degrés au Nord, 17 à Paris et jusqu'à 24 degrés au Sud, 24 pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse donc avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street s'accroche aux espoirs d'un plan de soutien aux États-Unis.
Ouais, le Dow Jones gagne 0,43%, 28 425 points, plus 0,5% pour le Nasdaq, 11 420 points. Ça monte malgré des discussions compliquées entre la Maison-Blanche et le Congrès à propos des mesures de soutien ciblées à l'économie. Républicains et démocrates s'opposent sur ce nouveau plan d'aide qui doit limiter les effets de la crise. Alors il y a un secteur qui attend beaucoup de ce plan, c'est le secteur aérien. La compagnie Delta Airlines monte de 1,6% ce soir, United Airlines plus 1,7%, Morgan Stanley gagne 0,6%, la banque va acheter la société de gestion d'actifs Eaton Vance pour environ 7 milliards de dollars. L'action Eaton Vance flambe de 48%.
Ah oui.
Et puis ça monte aussi pour les laboratoires Regeneron et Eli Lilly grâce à Donald Trump qui a vanté les mérites de leur traitement du Covid.
Le CAC 40, pour sa part, est optimiste. Il a clôturé au-dessus des 4900 points.
Oui, avec une hausse de 0,61% pour le CAC 40, 4911 points. Le compartiment technologique est particulièrement en forme. Capgemini bondit de plus de 5% et Atos de 2,6%. Du vert aussi pour Publicis, plus 2,3%. Les perspectives du marché publicitaire européen sont bonnes, notamment en France et en Allemagne. C'est Goldman Sachs qui le dit et ça profite au numéro 2 mondial de la pub.
Encore une belle séance pour les valeurs bancaires.
Les banques qui accusent beaucoup de retard en bourse et qui profitent donc de la hausse du marché. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale montent de plus de 1,5%. Le transport aérien et le tourisme ont profité de leur côté de la hausse des grandes compagnies aériennes à Wall Street. Air France KLM gagne par exemple 1,8%. C'est du vert ce soir pour les marchés européens. Francfort gagne 1%, plus 0,5% pour Londres, plus 1,2% pour Madrid, plus 1% pour Amsterdam, Milan gagne 0,8% et à Paris, le CAC 40 avance de 0,6% à 4 911 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain. 22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Christian Courtin-Clarins.
Bonsoir Christian Courtin-Clarins. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Clarins, célèbre marque de cosmétiques. Et Clarins prend aujourd'hui de nouveaux engagements sur sa responsabilité sociale et environnementale. C'est pour ça qu'on a voulu ce soir être en ligne avec vous sur Europe 1. Je vais citer quelques-uns de ces engagements. 100% d'emballage recyclable en 2025. Un sourcing 100% durable là aussi en 2025. Toujours en 2025, 80% d'extraits de plantes bio et une neutralité plastique. Vous faites ça parce que les consommateurs et les consommatrices le veulent ?
Certainement que les consommateurs et consommatrices le veulent, mais c'était plutôt dans notre ADN, puisque, si vous voulez, comme vous parlez par exemple des plastiques, je vous rappelle que dès 98 ou 99, je ne me souviens pas exactement de l'année, j'ai interdit les sacs plastiques chez Clarins. Donc c'était pratiquement 17 ans ou 18 ans avant le premier décret de la France sur les sacs plastiques. Donc on a toujours été conscient qu'on avait un rôle important pour protéger la nature. Du reste, c'est notre nouvel engagement, hein, rendre la vie plus belle et rendre la nature plus belle aussi.
Mais véritablement, on sent aujourd'hui que du côté des consommateurs et des consommatrices, et peut-être encore plus avec les marques de cosmétiques, on veut savoir d'où ça vient et on veut être sûr que c'est bien produit avec de bons produits.
Ça me fait plutôt plaisir, cette tendance, puisque on est déjà on a fait un énorme travail de transparence sur l'origine de nos matières premières, sur les actions que l'on mène pour faire de l'éco-conception avec toutes les connaissances d'aujourd'hui et des objectifs que vous avez cités. Je dois aussi ajouter quelque chose, c'est que cette année, on aura une neutralité carbone.
Si on reprend un exemple, celui du 100% d'emballage recyclable en 2025. 2025, c'est demain. Vous êtes sûr de pouvoir y arriver parce qu'on sait que ce qui bloque aussi souvent, c'est que c'est, mine de rien, pas si simple que ça à faire.
C'est pas simple à faire, mais je dois dire que dans l'industrie cosmétique, il y a une volonté de réussir. On a réussi avec d'autres groupes à parler à nos fournisseurs. Nos fournisseurs sont très conscients et vont dans cette direction. Donc c'est un travail en commun que l'on fait et 2025, on devrait pouvoir y arriver.
Et vous arriverez à vendre au même prix ou c'est le consommateur qui va devoir payer ses efforts ?
On vendra au même prix.
C'est un point du coup extrêmement important. Ce qu'on entend également, c'est par exemple les 80% d'extraits de plantes bio. Est-ce que là, la nature est prête à cela? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de production? On sait que pour le bio alimentaire, par exemple, on n'arrive pas à en avoir assez en France.
C'est vrai, mais bon, là, on sécurise nos... D'abord, on est plus petit que l'alimentaire, c'est-à-dire que les quantités que l'on demande, même si, par exemple, l'huile de noisette, on en consomme pratiquement 350 tonnes d'huile de noisette par an pour fabriquer nos huiles. On a eu des difficultés, mais bon, on sécurise nos filières et on y arrive petit à petit. Puis il y a un gros effort qui est fait chez pas mal d'agriculteurs. Ça augmente aussi leurs revenus. Ça met un petit peu peut-être en danger parfois la production, mais on est là pour les aider et les accompagner. Et jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, on est à 40%. On veut doubler d'ici 2025. Je pense sincèrement qu'à la limite, ce sera plus facile que le plastique.
Vous pourrez prouver que tout cela est bien respecté.
On va quantifier tout. Je vous ai parlé de transparence et on quantifiera tout ce que l'on fait. Ça n'a pas été toujours facile, si vous voulez, de parler de développement durable, de protection de la nature. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du groupe est... Je pense pas, j'en suis certain. L'ensemble du groupe est totalement derrière et veut réussir. Donc avec la volonté de non seulement de la France, mais des autres pays, on a toutes les chances d'y arriver.
Christian Courtin-Clarin, j'appelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de Clarins. Deux petites questions d'actualité pour terminer. On lit beaucoup de papiers qui disent que les femmes, notamment, se maquillent beaucoup moins à cause du confinement. Est-ce que ça se vérifie également dans les ventes de crèmes comme vous ?
Alors, nous, les crèmes, on marche plutôt bien. Bon, des crises, si vous voulez, moi j'en ai vécu beaucoup, plusieurs. Les fondamentaux de Clarins nous ont toujours permis de surmonter ces crises. On se porte bien. Dans un marché qui est en baisse pratiquement partout dans le monde, nous gagnons des parts de marché. Donc, c'est une satisfaction, même si on préférait être en positif plutôt qu'en négatif. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de problème pour les crèmes. Il y en a pour le maquillage, en revanche, c'est vrai. Déjà, avec le port du masque, fait qu'on a la femme a moins envie de porter un fond de teint, a moins envie de mettre un rouge à lèvres qui va tacher en plus son masque. Donc, elle se renforce un peu plus sur les yeux. Donc, on vend moins de maquillage, avec l'exception de tout ce qui est le maquillage des yeux.
Bien sûr. Vous êtes un groupe 100% familial. Vous avez vendu récemment votre division parfum à L'Oréal. Ça fait que vous avez gagné comme ça beaucoup d'argent. De façon très concrète, ça va servir à quoi chez Clarins, tout cet argent ?
La vente des parfums était une vision stratégique pour le groupe, c'est-à-dire de nous renforcer dans notre cœur de métier qui est le soin et le maquillage. Donc ça continue. Il y a un énorme obstacle avec le Covid aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à surmonter ça dans un avenir assez proche. Et donc, cet argent permettra à Clarins de devenir la première marque mondiale de soins. Nous le sommes déjà en Europe. Je vous rappelle que nous sommes une société 100% française et que nous exportons déjà 93% de tout ce que nous fabriquons. Donc, pour nous, il faut qu'on se renforce. Oui, en Europe, nous sommes premiers, mais nous ne sommes pas encore aux États-Unis ni en Asie. Et ce sont nos objectifs. Et c'était la raison de notre vente des parfums, car on voulait se consacrer et se concentrer sur Clarins.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Courtin-Clarins, le président du conseil de surveillance de Clarins, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Avec plaisir. Merci, Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. La réforme de l'ISF a fait chuter l'exil fiscal, c'est le titre à la une des Échos. Pour la première fois, les départs ont été inférieurs au retour en 2018. C'est du jamais vu, écrit le journal. Le remplacement de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière produit donc ses effets. Alors certes, il ne s'agit pour l'heure que de quelques centaines de redevables, mais le signal est encourageant pour l'exécutif, conclut en une les Échos. La Croix, pour sa part, nous emmène à Calais, dans les pas d'un candidat au départ. Le journal est allé à la rencontre d'un Iranien de 41 ans qui a passé 14 ans à franchir des frontières sans jamais réussir à gagner le Royaume-Uni, malgré 6 tentatives en bateau. Le Figaro titre pour sa part sur ce que la crise sanitaire a déjà coûté à la France, sur les 468 milliards d'euros du plan d'urgence pour éteindre l'incendie du Covid. Une cinquantaine ont d'ores et déjà été décaissés, écrit le Figaro. On termine avec l'opinion. Jean Castex, 100 jours jours sans convaincre. Titre en une, le quotidien libéral. Dans le dernier baromètre Elabe, le Premier ministre chute de 4 points et ne récolte plus que 28% d'opinions favorables. Jean Castex fêtera ses 100 jours à Matignon dimanche sans avoir convaincu l'opinion publique ni la majorité, écrit l'opinion. Voici donc les unes que vous pourrez éventuellement lire demain, une qui pourrait changer éventuellement en fonction en raison de la libération ce soir de Sophie Pétronin, dernière otage française. On l'a appris il y a un peu plus d'une heure maintenant, information confirmée par l'Elysée. Sophie Pétronin, 75 ans, qui avait passé près de 4 ans otage des djihadistes au Mali, est en ce moment même en vol pour Bamako. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dans le flash de 23h. Pour l'heure, je dis bonsoir à Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, quelle bonne nouvelle.
Voilà. Effectivement, voilà. On va la développer dès que les informations nous parviennent dans nos différents rendez-vous d'information, donc 23h et minuit. Les auditeurs en attendant peuvent vous joindre au 3921 pour venir témoigner dans votre libre antenne.
Exactement, et puis on se retrouve pour le flash, donc à 23h mon cher Julien.
À tout à l'heure.